Bonjour. Ce matin, en introduction, on a lu David qui dit à Dieu, à l'Éternel, mon bouclier est la force qui me sauve. Et ce matin, on va parler plus de faiblesse que de force. On a chanté tout à l'heure, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Alors, pour parler de faiblesse, on va lire les juges, juges 7. C'est l'histoire de Gédéon, un peu, beaucoup. Mais auparavant, on va essayer de se remettre dans le contexte. Alors, c'est 300 à 400 ans avant David. C'était une période un peu sombre d'Israël. Et depuis 7 ans, Madian et ses alliés pillaient Israël et détruisaient les récoltes. Et puis Dieu appelle Gédéon pour sauver Israël et celui-ci répond « Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » En lisant Juges 7, le texte est un peu long, c'est les 22 premiers versets. Juges 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Pardon. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, j'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retient les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu ce récit, et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisait en trois corps les 300 hommes, il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Et le camp s'enfuit. Alors, quand on lit ce récit, pour moi, le verset qui m'est venu à l'esprit, c'est le verset de 2 Corinthiens 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, ce verset peut servir pour résumer toute la vie de Gédéon, parce que son histoire, c'est d'abord l'histoire de la faiblesse. La faiblesse de Gédéon, et puis la faiblesse du peuple d'Israël. Mais c'est aussi l'histoire de la puissance et de la force de Dieu. Alors la faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, ce n'est pas seulement un sentiment. La faiblesse n'est pas la fatigue. La faiblesse, ce n'est pas l'incapacité de résister au dernier bout de chocolat. La faiblesse, ce n'est pas une spiritualité un peu molle, un malaise qui veut dire qu'on n'a pas envie de prier, ni envie ni le besoin, ni envie ni le besoin de lire la Bible. La faiblesse, ce n'est pas d'être un peu pâle le dimanche matin. La faiblesse, au moins, d'après la Bible, veut dire que nous ne nous reconnaissons pas comme forts, que nous ne pouvons pas réussir tout seuls, que nous avons besoin de quelqu'un d'autre, que nous dépendons de quelqu'un d'autre, de Dieu peut-être. Alors au début, il est bien possible d'imaginer que Gédéon était plein de confiance pour la bataille à venir. D'abord, quand on lit avant le chapitre 7, on s'aperçoit qu'il a convoqué les gens des tribus d'Israël, mais seulement de 4 tribus. Il devait se dire que ça suffisait. Et puis il avait des assurances venues de l'Éternel. Il avait reçu des promesses. L'Éternel lui avait dit « Je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » C'était ça la promesse. Et puis Dieu était réellement là. On lit « Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » L'Éternel était avec lui, près de lui. Mais quelque part, Gédéon n'était pas si confiant que ça. Alors peut-être pas manque de confiance de l'issue de la bataille, mais manque de confiance que Dieu soit vraiment là pour lui. Il a demandé 2 fois la confirmation à Dieu. Vous vous souvenez des histoires des toisons. Hein. Et après ça, il était probablement plein de confiance. Et peut-être une confiance mal placée. Je le vois bien dire à ces soldats, aux combattants, « Allez les gars, on est les plus forts, on va gagner. » Alors je voudrais faire un tout petit peu de mathématiques, mais c'est très élémentaire. Juste des additions et des soustractions. Gédéon avait environ 32 000 hommes prêts à se battre. Le chapitre 8 nous dit qu'après la bataille, il ne restait plus que 15 000 hommes de l'armée de Madian et que 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Donc l'armée initiale de Madian, 135 000 hommes. Alors Gédéon, avec 32 000 hommes, s'apprêtait à affronter une armée de 135 000 hommes. Un pour quatre. Alors, c'est pas idéal pour la guerre, mais avec une stratégie de surprise, c'était jouable. Et c'est là que Dieu intervient et dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Il pourrait dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alors, dis donc à tes soldats que ceux qui ont peur, qui sont craintifs, qui retournent chez eux. Dieu voyait que Gédéon et son armée auraient pu se vanter d'avoir gagné à 4 contre 1. Plutôt que de mettre leur confiance en Dieu dans la bataille, ils auraient pu dire « Yes, we can ». Nous pouvons le faire, nous allons le faire. Et après la victoire, plutôt que de voir la main de Dieu, il dirait, nous l'avons fait, c'était pas facile, hein, 1 contre 4, mais nous étions meilleurs et nous l'avons fait. Pour Dieu, l'armée de Gédéon était trop grande, trop forte. Alors quand Dieu renvoie en gros 22 000 hommes, Gédéon a dû se dire, Dieu, il n'est pas net. Il ne connaît rien à l'art militaire. Les deux tiers de l'armée de Gédéon sont partis. Bon, je pense qu'ils n'avaient pas trop envie d'être là, ceux-là. Mais bon, ils sont partis. Et Gédéon, je ne crois pas qu'il ait dit merveilleux, fantastique, formidable. Merci Seigneur, tu nous as débarrassés des deux tiers de mon armée. Maintenant, on est voué à l'échec. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas Gédéon, j'ai pas encore fini. Alors imaginez un peu si Dieu avait discuté avec Gédéon auparavant. Dieu dit, Gédéon, tu penses qu'avec 32 000 hommes, on peut battre Madian ? Gédéon, il dit, 32 000 hommes contre 135 000, c'est pas gagné, mais c'est possible. Gédéon, penses-tu qu'on peut battre Madian avec 10 000 hommes ? 10 000 hommes contre 135 000 ? Ça devient problématique, même improbable. Gédéon, penses-tu qu'avec 300 hommes, on peut les battre ? Non, 300. 300 contre 135 000. Non, 1 contre 450, aucune chance. Pas possible. Et Dieu lui dit, bon, alors c'est comme ça qu'on va faire. Et comme ça, tu sauras certainement que c'est moi qui l'ai fait, pas toi. Et Dieu renie l'armée de Gédéon jusqu'à 300 hommes. Les 300 avaient été choisis en observant leur façon de boire. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qu'on enseigne à l'école militaire. Mais l'armée de Gédéon a été choisie par Dieu et selon ses termes à lui. Dieu ne voulait pas qu'Israël soit fort, même pas un tout petit peu fort. Il voulait qu'Israël soit faible. Dieu voulait qu'Israël dépende de lui, entièrement de lui. Bien sûr, avec 300 hommes, on ne peut pas battre une armée de 135 000 hommes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais 300 hommes, plus Dieu, ça fait une force écrasante. Et comment est-ce que c'est pour nous ? Je crois que dans notre monde, on se doit d'être fort. On se doit d'être un gagnant. Et finalement, c'est assez facile d'être fort. Il est facile d'avoir confiance en nous-mêmes, de nous glorifier de ce que nous pouvons faire, de ce que nous possédons, de ce que nous avons fait, de ce que nous connaissons. Et on est souvent certain qu'on peut s'en sortir sans l'aide de Dieu. Oui, c'est bon qu'il soit là, parce qu'on ne sait jamais quand même. Mais nous pouvons quand même nous en sortir. Même dans les moments difficiles de la vie. Mais Dieu veut que nous soyons faibles pour que sa puissance puisse briller dans nos vies. Alors comment fait-il cela? Il fait comme il a fait avec Gédéon. Il nous enlève toutes les choses dans lesquelles nous pouvons mettre notre confiance jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien et que nous dépendions de lui. Alors ça peut arriver dans l'Église, alors que nous avançons, que notre connaissance de la Bible augmente, que nous décidons de nos programmes, de nos plans, qu'on a beaucoup de belles et bonnes idées, alors on peut être tenté de croire que nous pouvons le faire ou que nous l'avons fait. Alors soyons vigilants que, de peur que Dieu ne vienne nous dépouiller à travers les épreuves et les difficultés pour que nous soyons dépendants uniquement de lui. Il vaut mieux reconnaître notre dépendance de Dieu maintenant avant qu'il ne vienne nous faire chuter de notre position orgueilleuse et indépendante. Et puis ça peut nous arriver aussi en tant qu'individu. Réfléchissons un peu sur les choses dont nous dépendons plutôt que de dépendre de Dieu. Je crois que la façon dont nous montrons notre indépendance, c'est la façon dont nous avons de résoudre nos problèmes. Gédéon, lui, avait un problème, l'armée de Madian. Il a fait appel à ses compatriotes, 32 000 sont arrivés, alors à l'attaque. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Il n'y avait rien de mal, je pense, à rassembler une armée forte. C'était une solution valable au problème. Mais ce n'était pas la solution de Dieu. Et on peut se demander pourquoi pas. Dieu s'était déjà servi de grandes armées, pourquoi pas cette fois-ci? Souvenez-vous, un peu avant, Barak et Déborah, qui avaient 10 000 hommes quand ils sont allés faire la guerre au roi Jabin, c'est dans Juges 4, juste un peu avant. Cependant, après la bataille, la victoire fut attribuée à Dieu. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Dieu humilia Jabin. Pourquoi donc ne pas se servir d'une grande armée pour combattre Madian? Parce que Dieu ne le voulait pas. Il voulait montrer sans ambiguïté à son peuple que c'était lui le vainqueur, que l'issue de la bataille était seulement entre ses mains. La seule façon de résoudre le problème était la façon de Dieu. Alors une question, quand on a un problème, est-ce que nous prions au début ou quand on a tout essayé? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu est venu parler à Gédéon parce qu'il semble que Gédéon ne lui avait pas parlé. Certainement trop confiant. Et si on allait vers Dieu au début? Alors il est probable qu'il voudrait résoudre notre problème d'une façon qu'on n'imagine pas. afin que tout le mérite et toute la gloire lui reviennent à lui. Mais il est probable aussi qu'il voudra nous accompagner à travers le problème pour qu'on puisse apprendre, grandir et mettre notre confiance en lui. Encore une fois, que la gloire lui soit rendue parce qu'on n'était pas capable de s'en sortir tout seul. Et dans nos vies, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais on se rend compte que Dieu intervient quand on a tout essayé, quand on a épuisé toutes nos solutions, qu'on n'en a plus. On est devant le mur, plus rien. Sinon, nous pourrions en tirer gloire contre moi et dire « c'est ma main qui m'a délivré ». Et si on relit le chapitre 7, on voit que Dieu, encore une fois, a rassuré Gédéon en l'envoyant espionner le camp ennemi. Et puis, Gédéon part pour la bataille. Sa confiance en lui et en son armée est remplacée par une confiance renouvelée en Dieu. Et vous remarquez, quand il parle à ses hommes, il dit « levez-vous, car l'Éternel a livré en vos mains le camp de Madian. » Et ils sont vainqueurs. En fait, chacun dans l'armée de Gédéon est resté à sa place. Ils ont crié, ils ont sonné de la trompette, ils ont brandité les flambeaux. C'est tout. Ça ne rappelle pas un peu la chute de Jéricho, ça ? Alors ils n'ont fait que ça. Ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu vaillamment. Et c'est Dieu qui a mis en déroute l'armée de Madian. La petite armée de Gédéon n'a pas bougé. Chacun est resté dans sa place. Et on lit, tout le camp de Madian se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. On voit clairement que c'est Dieu qui a tout fait. Plus tard, bien plus tard, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, c'est dans sa première épître, au premier chapitre, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Gédéon a réussi avec une armée de 300 hommes, un plan véritablement fou. Dieu s'est servi de quelqu'un de faible et d'une armée ridicule pour défaire et confondre une armée forte, l'armée de Madian. Dieu ne veut pas que la victoire soit attribuée à quelqu'un d'autre. C'est là l'exemple de Gédéon. Il y a bien d'autres exemples dans l'histoire du peuple d'Israël où Dieu sauve contre toute logique. Je voudrais en retenir qu'une parmi le tas qu'il y a, c'est la traversée de la mer Rouge. Le peuple n'a pas combattu. C'est Exode 14. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. L'Égypte, l'armée égyptienne, l'armée dominante du monde à l'époque. Mais le plus grand exemple de la victoire dans la faiblesse, c'est la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jésus était perçu comme un faible sur la croix. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Mais à la croix, Dieu a confondu les sages du monde pour gagner ce qui est faible et fou, vous et moi. Jésus a été élevé et glorifié par son Père, et quand il reviendra, il sera fort pour juger le monde. Alors le monde peut nous mépriser parce que nous sommes faibles, parce que nous dépendons de Dieu. Il peut se moquer de nous. Il va dire « la religion, c'est l'opium du peuple ». Où Dieu n'est qu'une béquille pour ceux qui sont faibles et qui n'arrivent pas à faire face à la vie. Mais qu'il soit évident que c'est Dieu seul qui apporte la victoire dans nos vies. Qu'il soit évident que nous sommes faibles, pas pitoyables, pas lamentables, pas minables, pas pathétiques, mais dépendants de Dieu à chaque instant de nos vies. Nous ne mettons pas notre confiance en ce que nous sommes. Nous ne mettons pas nos confiances en ce que nous possédons. Nous ne mettons pas notre confiance en ce que nous faisons ou ce que nous avons fait. Que toujours nous mettions notre confiance en Dieu et qu'à lui soit toute la gloire. Amen.